du jamais vu pour l'époque. La France est réputée pour être une des locomotives mondiales en termes d'ingénierie et d'innovation industrielle. Quel meilleur moment que l'Expo Universelle pour le prouver. Oui, oui, mais voilà, la prouesse liée à un tel projet est incommensurable. Et deux visions vont s'opposer au moment de présenter les projets préparatoires. D'un côté du ring, l'architecte Jules Bourdet. Oh, c'est une star. Il est le concepteur du palais du Trocadéro, érigé lors de la dernière exposition universelle parisienne en 1878. Parfaitement introduit dans les milieux politiques et artistiques, son projet fait tourner de nombreuses têtes. Une tour en pierre monumentale de 370 mètres de haut, surplombée d'un phare. La colonne soleil, comme il l'appelle, sera réalisée en porphyre et en granit. Bourdet n'a aucun doute, il va remporter le marché. Aucun concurrent ne peut lui faire de l'ombre. Oui ben, pas si vite. Il y en a bien un qui décide de tenter sa chance face à son immense tour en pierre. Le concurrent de Bourdet n'est pas architecte, il est ingénieur. Le classicisme, il le rejette. Il est temps, selon lui, de faire entrer la France dans l'ère de la modernité. Et cela doit se voir lors de l'expo. Pour ce faire, exit la pierre. L'homme décide de proposer un projet délirant autour d'une tour entièrement métallique. Cet ingénieur, vous le connaissez, il s'appelle Gustave Eiffel. Et il va devenir, bien malgré lui, l'un des belligérants d'un conflit larvé. Tout l'oppose à Bourdet. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que sa dame de fer va faire parler d'elle. Assez pour provoquer l'ire de très nombreux artistes. Au milieu de cette bataille rangée, Debussy va tenter de jouer la carte de la neutralité. En 1886, le concours concernant la tour de 300 mètres de haut a officiellement été lancé par le ministère du Commerce. Le projet de la tour de fer, porté par Gustave Eiffel, vient de remporter la mise. Bourdet, son rival, a eu les yeux plus gros que le ventre. Debussy, comme bien d'autres, l'a compris. Qui peut imaginer décemment qu'un édifice de 370 mètres en granit puisse être bâti dans le temps imparti, qui plus est, avec un budget raisonnable? Non mais foutaise. Et pourtant, de nombreux artistes se sont rangés en ordre de bataille derrière le projet porté par l'architecte. Pas tellement par conviction devant cette idée grandiloquente, mais plutôt par opposition à celui de Gustave Eiffel, qui entraîne une levée de boucliers absolument ahurissante. Premier écueil, les pontes de l'architecture parisienne ont pris comme un affront la victoire d'un ingénieur sur un architecte. Et puis les artistes s'en sont mêlés. Malgré le froid ambiant, le jeune Claude Debussy est sorti de chez lui ce matin. Depuis le 26 janvier, les travaux préparatoires de la tour de la Discorde ont démarré. De quoi provoquer très rapidement une réaction qui s'apprête à entrer dans les annales. Le compositeur doit retrouver son ami, le critique Robert Godet, de passage à Paris. En chemin vers son lieu de rendez-vous, il achète le journal Le Temps, l'un des papiers les plus lus dans la capitale. Ce qu'il découvre, l'estomac. De très nombreux artistes signent une tribune en une. Le but, stopper à tout prix les travaux à peine lancés. Les mots choisis sont aussi tranchants que vifs, et les voici. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté, jusqu'ici intacts de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation. Au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacés, contre l'érection en plein cœur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, a déjà baptisé du nom de Tour de Babel. Ancre déjà l'idée que les Parisiens détestent ce projet. Debussy hoche la tête. La plupart de ses connaissances ne semblent pas opposées à la réalisation de l'ouvrage. Parcourant du bout de son gant les noms des signataires, Debussy reconnaît des artistes qu'il fréquente dans les salons. Maupassant, Dumas fils, le compositeur de musique Gounod, le peintre Meissonnier, et plus encore, Charles Garnier. Autant de stars du monde artistique et culturel qui se dressent avec force contre le projet porté par Eiffel. Le jeune musicien, lui, se contente d'observer de loin cette querelle intestine. Ça était ailleurs. Il est tombé éperdument amoureux de Gabrielle, Gabi aux yeux verts, une jeune femme avec qui il partage un quotidien léger et bohème. Il est bien loin de fait de ces querelles qui lui semblent insensées. D'autant que le musicien prépare un voyage de l'autre côté de la frontière. Il doit assister à une représentation de son compositeur le plus cher, Wagner. Persuadé qu'il lui manque quelque chose pour améliorer sa qualité de ce qu'il compose, Debussy compte trouver en Allemagne la réponse à ses questions. Ce qu'il recherche, c'est cette petite étincelle qui peut lui permettre de crever l'écran. Debussy va finir par la trouver. Le tout grâce à l'Expo Universelle. Allez, encore un peu de patience. Le bout du tunnel n'est plus si loin. Immédiatement après la publication de la tribune contre sa tour, Eiffel exige un droit de réponse. Et ses arguments font mouche, les voici. Parce que nous sommes des ingénieurs, croit-on donc que la beauté ne nous préoccupe pas dans nos constructions ? Et qu'en même temps que nous faisons solide et durable, nous ne nous efforçons pas de faire élégant ? Ah, c'est QFD, évidemment. De toute manière, une concession de 20 ans avec la ville de Paris est signée. La capitale s'est engagée à subsidier le quart du coût de construction de la tour. Il est trop tard pour reculer davantage le processus d'édification, d'autant que le chronomètre n'a de cesse de tourner. Bientôt, les premiers visiteurs seront là. Et si pour une raison ou une autre, l'édifice de la discorde n'est pas achevé, alors la France sera ridiculisée. Inutile de préciser qu'elle ne peut pas se permettre. Eiffel, dès lors, va occuper la quasi-entièreté de l'espace médiatique français. Pas de quoi stopper le processus, lancé sur des chapeaux de roue. Des caricatures parfois abjectes sont publiées, mettant en scène l'ingénieur. Mais l'homme est sûr de son fait. Il sait où il va et il ne compte pas se faire intimider. Les écrivains opposés à l'ouvrage continuent de répandre leur fiel. Verlaine parle de squelette de beffroi ou passant de fine cheminée d'usine. Les riverains du Champ de Mars, inquiets de voir tomber sur leur maison des morceaux de la tour, s'inquiètent. Eiffel doit s'engager à les dédommager personnellement en cas d'accident. Et semaine après semaine, malgré les nombreuses publications et les invectives, le paysage change de manière considérable. Il faudra à l'ingénieur et ses équipes un délai de seulement 2 ans, 2 mois et 5 jours pour terminer le travail. La performance est inouïe. Le chantier en lui-même donne le tournis. Chaque pilier mesure au sol une largeur de 25 mètres. Au total, la dame de fer mesure 125 mètres de large pour 312 mètres de haut. Pour réussir cet incroyable tour de force, il a fallu utiliser plus de 18 000 pièces de fer et plus encore près de 2 500 000 rivets. Le tout pour un poids total qui dépasse les 10 000 tonnes. Alors qui dit mieux ? Alors que l'Expo Universelle s'apprête à ouvrir, Bourdet et ses partisans peuvent aller se rhabiller. Eiffel a réussi son pari. En voyant le résultat final, Meissonnier et d'autres artistes ayant critiqué le projet vont même faire amende honorable. La tour ouvre ses portes au public peu de temps après le lancement officiel de l'Expo Universelle, le 15 mai 1889. Le succès est immédiat et populaire. Tous les visiteurs, si l'on excepte les quelques esprits retors comme Maupassant ou Garnier sont impressionnés. Symbole de modernité au milieu de la sécularité parisienne, elle s'impose dans les cœurs et les esprits. Debussy est loin d'être le seul à voir l'expo comme un événement réussi. Malgré les boycotts ou les polémiques, entre le 5 mai et le 31 octobre, plus de 32 millions de personnes visitent le Champ de Mars et l'esplanade des Invalides. Une réussite énorme, totale, et un chamboulement. La vie et la carrière de Debussy, subitement, vont changer du tout au tout. Il va devenir l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Compositeur à la recherche de son premier succès vient de signer une œuvre qui change tout. Sa suite Bergamasque pour piano. Un travail unique en son genre, qui, peu de temps avant l'été, a marqué les esprits et les consciences. Le compositeur vient de confirmer les promesses placées en lui depuis des années. Il a enfin trouvé sa voie, celle qui doit le mener vers les rivages de son univers. Dans les réceptions, les salons, les soirées, le jeune homme est devenu quelqu'un. Tous attendent la suite de ce travail qui ouvre des perspectives qui semblent infinies. Un soir d'août, alors que la nuit est restée douce et que les invités se pressent sur le balcon d'un appartement cossu donnant sur le Champ de Mars, le musicien est confronté à la silhouette de la Dame de Fer. Elle est pour lui le souvenir le plus précieux de cette exposition qui a transformé sa perception de l'art musical. Dans son cœur à lui aussi, la Tour Eiffel est devenu un symbole. Oh, c'est pas le cas de tout le monde. Au milieu des convives, Pierre Garnier a la mine des mauvais jours. Chaque fois que son regard croise l'œuvre de l'ingénieur, il se renferme comme une huître. L'architecte de l'opéra ne peut s'empêcher de lancer au musicien ces quelques mots. Vous pouvez me croire, monsieur, cette hideuse chose sera rasée avant ma mort. Debussy ne relève pas. Garnier n'est pas homme à prendre à la légère. Dévoré par la colère, il va bien tenter de mettre à bas l'œuvre de Gustave Eiffel. Forte de son succès précédent, la France se lance un incroyable nouveau défi. Accueillir pour le nouveau millénaire une nouvelle expo à Paris. Un appel à projet, avec Garnier à la manœuvre, est lancé pour réaffecter l'espace du Champ de Mars. Tollé général, alors que les candidats peuvent envisager la destruction de l'œuvre de Gustave Eiffel. Fort heureusement pour l'ingénieur, aucune des propositions n'est retenue. Et en 1900 comme en 1889, la tour est une véritable star. Il n'empêche, la concession de 20 ans accordée au concepteur de l'ouvrage arrive à son terme en 1909. La pérennité de la tour n'est pas assurée. C'est d'autant plus le cas que l'effervescence des premières années est retombée. Les visiteurs prennent moins de plaisir à visiter la Dame de Fer. Alors en 1903, la mairie de Paris envisage sérieusement sa démolition. C'est là que Gustave Eiffel va sortir de son chapeau une nouvelle stratégie qui fonctionne. Faire de l'ouvrage un lieu d'expérimentation scientifique. Autour du monde, devient un outil de la science et de la stratégie. Son premier réseau de télégraphie sans fil est installé au sommet à la fin de l'année 1903. Dès lors, et n'en déplaise aux opposants, la concession est renouvelée. Pour 70 ans, aujourd'hui, il nous paraît impensable d'envisager Paris sans la présence de sa célèbre tour métallique. Elle est d'ailleurs toujours le monument le plus visité du monde, avec pas moins de 7 millions de visiteurs annuels. La grande classe. Quant aux ennemis du projet, ils ont bien dû s'y faire. Comment ne pas penser à ces mots de Maupassant, qui disait régulièrement à son sujet « J'aime à déjeuner au restaurant du premier étage de la Tour Eiffel. » Pourquoi ? C'est le seul endroit de la ville où je ne la vois pas. Il l'empêche. Nous pourrions lui rétorquer avec malice que ces visites répétées peuvent témoigner d'une certaine admiration pour l'ouvrage tant décrié. Debussy, malicieux, n'aurait certainement pas dit le contraire.